temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre exceptionnelle avec Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Chez lui, dans sa bibliothèque, il fait beau, nous sommes entourés de livres, évidemment. Bonjour Patrick Modiano.
Bonjour Christophe.
Est-ce que vous pourriez nous décrire cette pièce dans laquelle on se trouve en ce moment même ?
Elle est entourée de bibliothèques, mais malheureusement, il y a trop de livres, je suis obligé de les évacuer au fur et à mesure. Et même l'ordre se perd. Au fur et à mesure, c'est terrible parce que les livres s'entassent dans des valises, dans des...
Mais oui. C'est l'endroit où vous écrivez, ici ?
Oui, c'est l'endroit où j'écris, mais je peux écrire n'importe où, en fait. Avant, je préférais écrire dans des endroits divers parce que c'est toujours un peu solennel de se mettre devant un bureau. Enfin, il vaut mieux pas avoir trop de rituels parce que c'est déjà pour se mettre au travail. Enfin, je veux dire, c'est déjà un peu... Alors, s'il y a trop de rituels, après on est encore plus paralysé par le...
Alors on s'était vu précisément il y a 3 ans, par une après-midi d'automne, dans cette même pièce. L'après-midi était ensoleillé, comme aujourd'hui, mais vous veniez d'obtenir le prix Nobel de littérature. Oui. Est-ce que les choses vous ont semblé changer dans votre vie d'écrivain, ou pour l'écriture ?
Pour l'écriture elle-même, c'est toujours le même problème. Ça change pas, en fait. Non, ce qui change, évidemment, c'est que d'abord, on est un peu étonné parce qu'on se trouve confronté avec des... C'est comme si on s'était introduit un peu par effraction parce qu'on est confronté à des gens qu'on admirait, enfin, dans son enfance ou sa jeunesse, qui ont... Mais évidemment, pour écrire, évidemment, ça change pas beaucoup. La seule chose qui change, c'est que c'est intéressant de voir comment les lecteurs, enfin, les gens... qui sont dans des pays, reçoivent vos livres, parce que nous-mêmes, on ne sait pas très bien, quand on écrit, on est un peu aveugle sur ce qu'on écrit, alors c'est bizarre d'être confronté à la vision que peut avoir...
un Argentin
Ça, parce que comme on ne sait pas très bien qui on est, justement, ça vous donne des...
Mais dans le côté, je pensais à Vargas Llosa, qui lui aussi a eu le prix Nobel, et qui disait, un prix Nobel, ça vous enterre vivant, ça fait de vous une statue. Alors bon, que ça soit enterré vivant ou statue, ça fait de vous quelqu'un de moins vivant. Est-ce que ça a été votre cas ?
Lui, il le dit peut-être parce qu'il a... Il est un peu un personnage public, il a voulu faire... Enfin, il a...
Oui, on l'a vu à Barcelone.
Et puis aussi dans son propre pays, il a... Évidemment, c'est peut-être parce que... Non, peut-être qu'en France, par exemple, pas tous, mais la plupart des écrivains qui avaient reçu ce prix, Anatole France ou Romain Rolland, ou... c'était des personnages publics, enfin des personnages qui étaient presque des maîtres à penser, ou qui avaient... Mais... quand c'est simplement des romanciers, comme dans d'autres pays, ou des poètes même, finalement, rien... Non, c'est vrai que...
Oui, finalement, quoi, c'est moins pesant, finalement, vous...
Je sais pas, c'était un écrivain américain qui disait que une fois qu'on avait ce prix, après on pouvait plus... Non, mais le problème, c'est que ce prix, évidemment, vient souvent à la fin de... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir à 30 ans, ou à part qu'il y a aussi, il y a eu quelques... Mais ça vient à la fin, alors c'est à une période un peu bizarre où on se demande si on va pouvoir continuer à écrire, surtout pour un romancier, parce qu'en fait, il faut bien dire, à partir d'un certain âge, si vous avez commencé très jeune, évidemment, ça commence à s'épuiser. Enfin, c'est surtout pour ça qu'il y a un problème.
À un certain âge, vous dites, on a plus de mal, en fait, quand on est romancier, à écrire. Vous dites, ça commence à s'épuiser. Qu'est-ce qui s'épuise, en fait ?
Il y a un problème, parce qu'évidemment, à partir d'un certain âge, peut-être un peu plus vieux, il y a une attention qui peut peut-être plus concentrée comme... parce que je ne sais plus quel romancier disait qu'à partir d'un certain âge, il n'avait presque plus la mémoire de ce qu'il avait écrit au début du livre. Alors donc, pour essayer de concentrer tout... C'est vrai, c'est quelque chose où il faut une espèce d'attention, et évidemment à partir d'un...
Oui, d'ailleurs, vous aviez comparé dans votre discours de Stockholm, votre discours du Nobel, l'activité de l'écrivain, un grand peintre qui était Modigliani, qui en fait, en regardant les gens sous leur humble apparence, il révélait, en fait, il en faisait des êtres vraiment singuliers.
Oui, ça dépend des romanciers, mais quelquefois, évidemment, on est obligé de fixer son attention presque d'une manière hypnotique sur certains objets. Alors évidemment, à part, je ne sais pas si quand on est un vieux, enfin quand on devient un vieux, les trucs se brouillent et on n'arrive plus.
Vous disiez, je vous cite sur Modigliani, oui. Il leur a donné ainsi, oui. Ou plutôt il a dévoilé, oui. Toute la grâce et la noblesse qui étaient en eux sous leur humble apparence. Le travail du romancier doit aller dans ce sens-là. Voilà. Donc on comprend, oui. Bien que c'est une question de regard.
Oui,
peut-être quand on est un peu plus vieux, le regard
se brouille. Oui.
Alors, juste, et puis on en terminera avec le Nobel. Oui. Orhan Pamuk, lui, a une phrase aussi. Il dit, oui. La cérémonie du Nobel ressemble à un roman de Modiano. Alors, est-ce que Modiano confirme ?
Ah, il a dit ça. Ah, oui, ah, peut-être parce que, évidemment, c'est un peu irréel, parce qu'il y a tout un côté, le roi, oui, c'est un peu comme quand on lisait enfant des...
Mais il n'y a pas de roi chez Modiano.
Le baron Nord, non, mais il y a un climat presque irréel, en fait. Ouais. Puis la Suède est un pays très particulier. Oui, il y a un côté romanesque, un peu. Ouais.
Alors, je me souviens de votre discours où vous tentiez d'expliquer ce qui fondait votre métier d'écrivain. Je dis métier à cause du métier de vivre, l'expression de Pavese. On pourrait dire vocation d'écrivain. Et je vous cite Patrick Modiano. « D'où sans doute ce désir d'écrire qui m'a pris, comme beaucoup d'autres, au sortir de l'enfance. Vous espérez que les adultes vous liront. Ils seront obligés ainsi de vous écouter sans vous interrompre. Et ils sauront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur. » Cette phrase, elle implique deux choses. D'abord que la vocation d'écrivain commencerait au sortir de l'enfance, qu'elle serait même conditionnée par cette enfance. Oui. En quoi votre enfance à vous, elle a conditionné cette vocation d'écrivain ?
Non, mais je disais ça parce que d'une manière générale, évidemment, les enfants de ma génération, on n'avait pas le droit de parler. Enfin, il fallait demander la permission et puis on ne vous écoutait pas tellement, de sorte que... Ça, c'est d'une manière générale. Alors, dans mon cas, évidemment, c'était une enfance bizarre où j'étais un peu trimballé dans des endroits différents où mes parents n'étaient pas là. Tout ça, plus tard, évidemment, ça vous... rétrospectivement, c'est comme un détective. Vous essayez de faire une enquête pour savoir ce qui avait eu lieu vraiment. Et c'est ça, peut-être, qui déclenche un désir d'écrire.
Et ce qui m'a étonné aussi, c'est que... ce qu'implique aussi cette phrase, c'est que... Oui. On écrit donc pour dire ce qu'on a sur le cœur, hein, c'est votre expression, pour que les autres le sachent, en fait, parce qu'on a été interrompu pendant l'enfance.
Oui.
Donc maintenant, enfin, on a le droit de parler. Mais ça veut dire qu'on n'écrit pas pour... Enfin, vous n'écrivez pas pour vous, en fait. Vous écrivez pour dire quelque chose aux autres, pour que les adultes le sachent.
Oui, on écrit pour rétablir peut-être un équilibre. Parce qu'évidemment... Si on décide d'écrire, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, parce que sinon on se contenterait de vivre. Donc on essaye de rétablir un équilibre qui n'était pas très... Par rapport à la vie courante, c'est une activité un peu bizarre qui vient toujours à la lisière de la vie, tout ça, où on est obligé d'être un peu un spectateur. Enfin oui, donc on veut rétablir un équilibre, quelque chose qui est un peu bancal. Alors, on se dit, en écrivant, on retrouve une sorte d'équilibre dans la vie. Enfin,
quoi, une sorte de centre de gravité. Parce que quand vous dites spectateur, oui. C'est-à-dire qu'on est spectateur de la vie des autres, de sa propre vie aussi, pour écrire.
Oui, c'est presque. On a besoin d'avoir cette espèce de compagnonnage perpétuel Oui, il y a peut-être pour mettre en valeur peut-être certaines choses de votre vie ou de. Oui, c'est peut-être une manière de retenir des détails de votre, enfin, dans cette fuite perpétuelle du temps. Tout ça, c'est peut-être pour mettre de l'ordre dans un chaos.
C'est drôle parce que je pensais en vous écoutant à l'étymologie du mot texte, en fait, qui se rapproche du tissu, de la texture.
Oui,
je pensais à l'image de quelqu'un qui raccommode, différents morceaux.
Oui, des morceaux. Voilà.
Pour les faire tenir.
Oui, pour qu'il y ait une espèce de cohérence.
Alors en tout cas, ce que vous avez sur le cœur, on le découvre avec ces nouveaux livres, ces deux livres que vous publiez. Alors il y a Nos débuts dans la vie, qui est une pièce de théâtre dont le texte mêle à celui de La mouette de Tchekhov. Oui. Et qui nous présente cette pièce Dominique et Jean, qui ont 20 ans. Oui. Dominique, elle est actrice, c'est le double de Nina dans la pièce de Tchekhov.
Oui.
Et Jean, qui serait le double de Constantin, qui est un écrivain qui rêve de publication. Tous les deux commencent dans la vie et ils se heurtent justement à ce monde des adultes dont on parlait tout à l'heure.
Oui. Ouais.
On sent, c'est un peu le combat de génération, des jeunes contre les vieux. Ils sont donneurs de leçons, y compris sur la création.
Oui.
Ils sont même oppresseurs de vocation. Alors, ça illustre ce que vous nous disiez, écrire ou jouer, hein, pour le personnage de l'actrice, c'est s'imposer sur des adultes qui vous ont interdit le langage.
C'est-à-dire, c'est compliqué parce que quelquefois ça se passe très bien avec les adultes quand on est très jeune, mais maintenant c'est peut-être plus facile, mais quand on rêve d'un métier, j'allais dire, à plus ou moins artistique, tout ça, quelquefois on se heurte à une, on se heurtait, parce que maintenant c'est différent, à une certaine désapprobation des adultes, et même, c'était dans n'importe quel milieu, parce que même dans des milieux soi-disant artistique.
Qui était votre milieu d'ailleurs, c'était plutôt un milieu artistique. Votre mère, elle était, actrice, et puis il y avait votre beau-père à un moment qui était écrivain. Enfin, Jean Co, qui était un peu écrivain lui aussi. Donc,
Mais la pièce de Tchekhov m'avait frappé toujours dès mon adolescence, bien qu'il y a tout un terreau aussi dans cette pièce, il y a d'autres personnages, mais les personnages principaux m'avaient frappé parce que je me sentais un peu familier de ces.
De ce que raconte la pièce de Tchekhov.
Oui, oui. De l'écrivain, de la femme qui était actrice, puis du fils qui voulait écrire, tout ça. C'était des choses qui m'étaient proches.
Qui vous parlaient totalement. C'était votre vie aussi de jeune homme, presque.
Oui, c'est-à-dire, je me sentais une version un peu miteuse de la pièce de Tchekhov, parce que dans la pièce. J'avais l'impression que c'était une sorte de caricature.
Pourquoi vous dites ça, version non, parce miteuse
que parce que dans la pièce de Tchekhov, il y a une sorte de. Côté un peu onirique, tout ça.
Oui, il y a le lac et tout ça.
C'était comme une sorte de parodie, enfin.
Et puis, il y a un roman, on va en reparler de la pièce, évidemment. Il y a un roman, Souvenir dormant, où il est beaucoup question de rêves, de mystères, de Paris. Et moi, vraiment, ça m'a frappé. Je trouve que ça crève les yeux. J'ai l'impression que dans ce livre-là, vous nous donnez vraiment, pas pour la première fois, mais pour la première fois de façon aussi phosphorescente, les clés de votre travail. Je rappelle quand même l'intrigue pour les auditeurs. C'est un jeune homme qui fugue de son pensionnat. Hein. Il est plutôt dans le sud, dans les Alpes, par là. Oui. Il vient à Paris. Il rencontre un certain nombre de personnages, notamment des femmes. Il y en a six. Alors, il y a Geneviève Dallam, qui lui ont fait rencontrer une autre, Madeleine Perrault, Madame Hubersen. Il y a Gurdjieff, ce personnage de sage, un peu gourou, peu écrivain, un peu penseur, occulte, hein, qui apparaît parce que, en fait, ces femmes fréquentent ces groupes de travail. Oui. On reviendra sur cette dimension occulte. Mais il y a des phrases comme ça qui m'ont vraiment marqué. Je tente de mettre de l'ordre dans mes souvenirs. Chacun d'eux est une pièce de puzzle, mais il en manque beaucoup, de sorte que la plupart restent isolés. Parfois, je parviens à en rassembler trois ou quatre, mais pas plus. Alors je note des bribes qui me reviennent dans le désordre, des listes de noms ou de phrases très brèves. Je souhaite que ces noms, comme des aimants, en attirent de nouveau à la surface et que ces bouts de phrases finissent par former des paragraphes et des chapitres qui s'enchaînent. C'est votre méthode, c'est presque votre boîte à outils que vous nous ouvrez, j'ai eu l'impression.
Oui, en fait, c'est un livre, on peut pas dire que ça soit vraiment un roman, c'est plutôt un livre sur les caprices ou de la mémoire ou les souvenirs qui reviennent déformés dans un demi-sommeil ou dans. Alors les souvenirs sont souvent complètement incomplets ou inachevés ou parce qu'on sait pas ce que sont devenus les gens après. Et ça vous donne toujours une impression de discontinuité. Donc, c'est plutôt une sorte de rêve éveillé, quelqu'un qui essaye de retrouver des gens qu'il a rencontrés comme ça, mais où tout se mêle, parce qu'en fait, le souvenir se mélange avec l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est compliqué, parce qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ce livre, évidemment, ça résume un peu ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que je peux pas dire que ça soit de l'écriture automatique, comme le pratiquaient les surréalistes, ou des gens comme Desnos qui arrivaient à, comme ça, d'un seul jet à, là, c'est un peu le même système, mais c'est après retravaillé d'une manière, c'est difficile à expliquer, parce que c'est pas du tout improvisé, en même temps, c'est comme si on se mettait dans un état de rêve éveillé et d'essayer de transmettre peut-être à celui qui va lire le livre l'état dans lequel on est, où il y a des choses qui passent, comme si vous dirigiez un peu une sorte de rêve, parce que, parmi les personnages que vous citiez, sans m'en rendre compte, il y a deux ou trois personnage de femme là, qui apparaissait déjà dans les romans précédents, mais j'avais complètement oublié, comme si elles avaient une vie presque végétale, réapparaissaient sans que je me rende compte dans ce livre.
Mais j'avais l'impression qu'en plus, parce que là, c'est un peu là, toute la matrice de vos livres, le côté, le rêve, qu'est-ce qui est de l'ordre du rêve, de la réalité, puisqu'évidemment c'est une mécanique aussi du souvenir qu'on convoque, mais là, quand vous dites des bouts de phrases qui finissent par former des paragraphes et des chapitres qui s'enchaînent, c'est comme ça que vous écrivez, c'est-à-dire avec ces noms, vous parlez aussi de noms comme des signaux qui donnent accès à un chemin caché. Au cours de ce travail que l'on fait à tâtons, certains noms brillent par intermittence, tels des signaux qui vous donneraient accès à un chemin caché. Et on a l'impression que vous donnez presque votre... les clés de votre art, la boîte à outils, c'est pour ça que je parlais de ça. Comment, paragraphe, tâtons.
Oui, c'est parce que pour avoir l'impulsion d'écrire, enfin, c'est mon cas particulier, mais ça peut être différent pour d'autres personnes. Comme c'est assez difficile c'est un travail un peu long. C'est presque comme si on cherchait des adjuvants qu'on prenait. Et donc, évidemment, ce qui entraîne, dans mon cas, c'est quand il y a des choses qui manquent, tout ça. Alors, ça vous donne une sorte d'élan pour essayer de reconstruire de chercher, des éléments manquants, comme ça, des choses qui sont... Ça vous donne une sorte de force, d'élan...
Pour continuer.
Oui, comme si vous étiez votre propre...
Drogue, presque.
Oui, une sorte de... Oui, c'est...
Quand vous avez dit une sorte d'adjuvant, c'est... Parce que je me souviens qu'ici, on avait parlé... il y a quelques années, je me souviens, vous avez des livres de Jean Lorrain, d'ailleurs, qui avait écrit Conte d'un buveur d'éther, qui était un écrivain décadent. Et vous disiez que l'éther, en fait, parce que quand vous étiez petit, vous avez été renversé par une voiture.
En fait, c'était quelque chose, finalement, qui m'a marqué, parce qu'à l'époque, j'avais été renversé par une voiture, on m'avait emmené
un hôpital
chez les bonnes sœurs, et elles m'ont appliqué à l'époque, il y avait un truc très spécial, on appliquait une sorte de pas de tampon, mais un espèce de... comme une muselière, enfin...
un inhalateur.
Un inhalateur où il y avait de l'éther, et ça m'a marqué... ça a été...
Ça vous a marqué comme quoi? Comme la sensation
La sensation.
Ça a déclenché dans l'imaginaire quelque chose?
Oui, ça m'a marqué la sensation à la fois de froid et de... Peut-être que j'ai voulu essayer d'exprimer... de donner cette impression dans mes livres, parce qu'en fait... j'ai toujours essayé j'essaye d'analyser un peu que le lecteur, une fois qu'il arrive à la fin du livre et que le livre, qu'il ait l'impression de se réveiller brusquement de lui transmettre ce que moi-même j'éprouve en écrivant Mais alors, ce qui est paradoxal en même temps, c'est que c'est difficile parce que pour essayer de transmettre cette chose, il faut aussi, il y a tout un travail de suppression, pour qui est des vides, parce que quand vous donnez trop d'informations, ça étouffe le lecteur, de lui laisser des... C'est ça qui est compliqué, parce que c'est à la fois d'écrire dans une sorte d'état de rêve et de presque d'écriture automatique, mais en même temps, c'est pas de l'écriture automatique, parce qu'il faut la retravailler.
Oui, puis il y a les noms quand même, il y a toujours les bottins, les annuaires. Ça reste quand même votre matière première, en fait. Les noms que vous voyez, les numéros de téléphone, les adresses parisiennes.
Oui, parce qu'évidemment, quand on voit dans des bottins comme ça, des adresses ou des noms, vous ne savez rien de la personne c'est très difficile. Donc ça vous donne un élan. Vous ne saurez jamais rien, mais ça vous donne un élan. Vous imaginez, donc c'est ça qui donne l'élan souvent de ce que j'écris.
Vous citez dans ce nouveau livre Souvenirs dormants, Patrick Modiano, un mystérieux, alors il n'est pas mystérieux, il a existé, un théoricien du rêve, Hervé de Saint-Denis, auteur de Les rêves et les moyens de les diriger. Et en fait, je vous cite, il ne pourrait rien contre nous, c'est les deux personnages qui parlent d'un danger, il suffisait de détourner le rêve, selon les conseils d'Hervé de Saint-Denis, comme on donne un léger coup de volant, et la voiture roulerait sans heurts, l'une des voitures américaines de ce temps-là, dont on aurait dit qu'elle glissait sur l'eau en silence. Dites-moi, vous maîtrisez cet art de diriger les rêves maintenant, après avoir lu Hervé de Saint-Denis? J'adorerais ça.
Oui, c'est-à-dire que souvent on fait des rêves et vous vous trouvez dans des situations assez graves, mais vous dites, alors c'est l'inverse, vous dites de toute façon, si ça tourne mal, je peux me réveiller. Et oui, dans Hervé de Saint-Denis, il y avait...
Et c'est ce que disait Gurdjieff aussi, il disait qu'en fait on vivait notre vie, Gurdjieff qui est un des personnages, on vivait notre vie entre le sommeil et le rêve, et qu'en fait si on passait à un plan supérieur, on était illuminé quoi.
Oui, on arrivait à ce... Oui, c'était un peu... Oui, Gurdjieff, c'était un peu le même...
Alors, vous parliez de ce que vous attendiez du lecteur, Patrick oui. Modiano. Je me souviens que vous aviez parlé dans votre discours de Stockholm. Oui. Et en fait, je voyais presque une contradiction. Oui. Parce que vous aviez dit que le lecteur en sait plus long sur un livre que son auteur
oui,
lui-même.
Oui.
Ça, c'est très borgésien, d'ailleurs.
Oui.
Mais en même temps, vous disiez que votre art, c'était un peu comme de l'acupuncture.
Oui.
Où il fallait piquer l'aiguille à un endroit très précis pour que le flux se propage dans le système nerveux de
oui c'est ça lecteur. Oui oui
mais donc c'est quand même l'auteur qui mène la danse enfin
oui enfin c'est plus compliqué
vous
que ça
manipuler un peu
oui ouais. Parce que c'est très ponctuel l'acupuncture vous plantez des aiguilles comme ça mais en même temps ce qui est terrible quand on écrit c'est qu'on n'a pas une vision d'ensemble de ce qu'on alors évidemment quand je parlais d'acupuncture je voulais c'était des trucs ponctuels vous comme ça des aiguilles que vous piquez comme ça mais en même temps ce qui est terrible c'est que vous n'avez jamais la vision panoramique de ce que vous faites parce que d'abord il faut faire des tas de corrections tout ça donc c'est comme si vous aviez le texte trop proche oui. de vos alors il y a que le lecteur qui peut avoir une vision
de la fresque en fait c'est ça de
oui
la,
ouais, oui c'est comme un type qui fait une fresque qui est allongé sur un échafaudage et qui est obligé mais c'est pour ça qu'à mon avis il y a que le lecteur qui peut avoir une vision d'ensemble d'un...
mais il faut quand même le piquer à des endroits
oui
alors c'est quoi c'est des petits signaux que comment vous
oui.
faites c'est-à-dire dans le texte pour ces petites zones d'énergie hein, ces
oui.
points d'énergie
c'est-à-dire
c'est quoi c'est un nom c'est une adresse
oui.
c'est un visage
c'est plutôt une manière de corriger le texte parce que souvent par curiosité je regardais certains manuscrits maintenant c'est plus difficile parce que il y a l'écriture sur internet mais de manuscrits d'écrivains alors il y avait plusieurs genres d'écrivains il y avait j'ai vu Proust par exemple c'était pas des corrections de détails c'était il rajoutait des phrases sans arrêt c'était pas tellement des corrections microscopiques comme ça c'était sans arrêt de rajouter parce que on voyait bien ce qu'il voulait c'était enfermer enfin inconsciemment, ouais. il voulait enfermer le lecteur dans une sorte de végétal de plus en plus... Ouais.
D'aquarium, presque.
Oui,
aussi,
d'aquarium ouais. et de végétal de plus en plus étouffant. Ouais. Alors donc, lui, il procédait par rajout systématique ouais. de ouais. phrases. Ouais. Alors, il y a d'autres écrivains, on voit que c'est plutôt des... Ouais. En général, c'est banal, ouais. c'est comme moi, c'est-à-dire que c'est plutôt des corrections de détails, de suppression de deux mots. Mais alors... c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, on corrige tellement qu'on n'arrive plus à avoir une vision d'ensemble, ouais. il n'y a que le lecteur ouais. qui...
Oui, puis vous disiez d'ailleurs, c'était il y a 10 ans précisément, ici en septembre 2007, vous m'aviez dit, quand ils disent que je suis vague, c'est
oui.
évidemment bizarre, ça c'est le mot
oui.
modianesque, bizarre, c'est évidemment bizarre pour moi parce que j'ai l'impression que ma phrase est tellement pauvre
oui.
que j'ai besoin de m'agripper à la réalité, elle en devient surréelle en fait.
Oui, parce qu'en fait... on peut pas être vague, parce que la phrase est assez pauvre, je veux dire, c'est toujours à la limite, il y a pas d'adjectif sujet, verbe complet. Donc, c'est difficile d'être vague, donc c'est plutôt assez clair, mais évidemment, ça peut donner une impression un peu d'étrangeté ou de, mais c'est comme certains tableaux surréalistes, peut-être qui étaient très précis. Et qui donnait une impression surréelle, mais qui était très précise. Enfin,
oui, même Delvaux
même,
ou Magritte.
Oui,
exactement. Ouais. Non. On va marquer une pause, oui. Patrick Modiano. On va écouter votre premier choix musical. Vous avez choisi Billie Holiday.
Ah
on
oui,
écoute.
Oui.
Écoutez France Culture, le temps des écrivains, par Christophe Onodibio.
You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues. Until you've loved a love you've had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hate until you've kissed and had the pain the cause. Until you've flipped your heart and you have lots. You don't know what love is. Do you know how lost heart feels? The thought of reminiscing and our lips that taste of tears. Lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you face each dawn with sleepless eyes. You don't know what love is. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know what love is.
Holiday, c'est le premier choix musical de Patrick Modiano. Le prix Nobel de littérature nous reçoit chez lui, dans sa bibliothèque, pour la parution de son nouveau roman Souvenir dormant et de sa pièce de théâtre Nos débuts dans la vie, qui paraissent chez Gallimard. Pourquoi vous avez choisi Billie Holiday ?
Là, c'est des choix un peu liés à une ambiance sur le moment, comme ça, mais il y aurait pu y avoir d'autres. C'est parce qu'on était au mois d'octobre, je sais pas, c'était lié à l'ambiance.
À l'amour, quand même.
Parce oui,
que,
à la,
oui. Si vous dites le mois d'octobre.
Oui, oui.
C'est l'amour, elle parle d'amour.
Oui, c'est ça. Elle, puis j'ai, oui, c'est les hasards un peu du temps ou de. Oui, c'est des choses qui sont dans l'air, dans la journée. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser.
Moi, ça m'a fait penser à une question que je voulais vous poser sur ces deux livres. Ça parle des, bon, des débuts dans la vie, de la jeunesse. Notamment dans Souvenir dormant, cet homme est avec rencontre six femmes. Mais on ne sait jamais, justement, sur l'amour. Il y a très peu, par exemple, on ne sait pas ce qu'ils font, en fait. S'il y a de l'amour physique ou pas. Vous n'aimez pas écrire là-dessus, sur l'amour physique ou sur, on ne sait pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de caresse, il n'y a pas.
Parce que ça, c'est encore un truc aussi, c'est que il faut laisser des blancs parce que en fait l'attention se.
Il faut ça ne laisser... gêne pas d'écrire sur par exemple sur l'amour physique.
Non, pas du tout. Non, c'est pour laisser une certaine liberté aux personnes que j'évoque. C'est peut-être parce que, pour dire vrai, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui sont assez troubles et que si on entre dans les détails physiques, ça va casser le truc. C'est que. On suppose certaines choses, c'est comme si vous suivez des personnages et pour leur laisser une certaine intimité, vous les voyez entrer dans un, sous une porte cochère et vous dites qu'est-ce qui va se passer et il y a un problème quand on écrit, c'est la place où le jeu se met, c'est-à-dire, alors, si vous les suivez trop près et si vous les suivez même dans la chambre où il va y avoir des trucs physiques, ça va, on va avoir l'impression d'une sorte de caméra qui enregistre des choses et donc, ça va devenir objectif, je peux pas vous... Parce que là, c'est quelqu'un qui raconte et qui ne peut pas dire tout, parce qu'il y a quand même des choses un peu étranges.
Il y a un meurtre, notamment.
Et puis, il y a des rapports très bizarres, donc c'est encore plus trouble si on ne dit rien.
Vous parliez de porte cochère, Patrick Modiano. Dans ce livre, c'est toujours à Paris, hein, on est évidemment à Paris, hein, la matrice de votre imaginaire. et de Mystère de Paris. Alors, c'est pas forcément oui. ceux de Gene Sue. Vous décrivez votre personnage, par exemple, en train d'attendre devant la porte. J'avais écrit d'ailleurs devant la porte d'un mystère, vous voyez, devant la porte d'un immeuble, comme il avait des années avant attendu une fille qui n'était jamais venue. Et il dit, ce personnage, si l'on m'avait demandé, et tout cela dans quel but, je crois que j'aurais répondu simplement pour tenter de résoudre les mystères de Paris. Est-ce que cette réponse-là, pour tenter de résoudre les mystères de Paris, c'est pas aussi une réponse à pourquoi écrivez-vous ?
Oui, c'est un peu pour essayer d'élucider des mystères qui ne pourront jamais être. Donc ça vous donne un élan, dans mon cas personnel, mais pour d'autres écrivains, ça peut être au contraire pour éclaircir des choses d'une manière très nette. Mais oui, moi ça a toujours été... Pour essayer de trouver un élan pour écrire, c'était quand il y avait quelque chose qui n'était pas très clair et que j'essayais de l'éclaircir.
Et pour qu'on comprenne bien, est-ce que le fait que, évidemment, Paris, vous vivez dans cette ville, c'est cette ville que vous explorez, mais est-ce que ces mystères de Paris viennent toujours de cette histoire, de vos parents, de l'occupation, ou c'est trop facile de dire ça,
parce que ça vient aussi de ce que j'ai vu. Quand on est très jeune, adolescent ou même enfant, on est souvent dans la rue, comme ça, vous rencontrez des gens dans la rue, en fait. Donc, c'est pas lié à mes parents, parce que...
C'est pas les zones troubles, l'occupation.
C'est plutôt les mystères de Paris, c'est plutôt des rencontres qu'on peut faire dans les rues de Paris. Mais en même temps, c'est terrible pour un romancier parce que j'ai toujours eu la nostalgie, moi, de si j'étais né dans un. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les écrivains qui décrivaient, certains écrivains anglais ou russes qui décrivaient la campagne qui. Quelquefois, si j'ai été né à la campagne, j'aurais. C'est toujours le.
Ça aurait été la campagne.
Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est le hasard de la vie parce que c'est pas. Sans doute, certaines lectures que j'ai faites, que j'aimais, souvent, ça se passait Donc, c'est les hasards de la vie qui vous ont.
Mais c'est quoi ? C'est que ça remonte encore une fois, toujours à ce qu'on disait au départ ? C'est l'enfance qui a façonné ça ? Parce que la campagne, vous la connaissez, je veux dire, vous avez aussi voyagé. Qu'avec le prix Nobel, vous avez voyagé. Donc vous auriez pu écrire sur, sur une île déserte. Le fait d'être toujours dans Paris et de toujours expliquer qu'il y a des mystères de Paris à résoudre. Parce que quand même, la ville, elle a changé.
Elle a changé,
Là, c'est les années 60, mais...
Oui, elle a beaucoup changé.
La ville, ça change aujourd'hui. Les gens se géolocalisent, chacun a son plan dans sa poche via son portable. Donc, Or, vous, c'est une ville où il n'y a pas de géolocalisation, en fait.
Oui, c'est une ville qui devient irréelle. C'est une ville que j'ai connue quand j'étais enfant ou adolescent, mais finalement, ça devient de l'imaginaire, comme vous dites, parce que maintenant, c'est plus du tout le même... Non, mais quelquefois, on regrette, évidemment, c'est des situations, par exemple... Moi, c'est vrai ce que vous dites, j'ai connu d'autres choses que Paris, j'ai été dans des pensionnats en province, tout ça, j'ai regretté aussi... de pas être un écrivain qui aurait pu décrire la province, par exemple, parce que la province, c'est très romain. Enfin, je veux dire, certains grands romanciers français sont des romanciers de la province. Je sais pas, de Bordeaux, ou même, donc j'ai regretté aussi de pas pouvoir, parce que j'aurais pu aussi décrire une certaine province que j'ai connue, de petites villes de province, tout ça, où il y avait un côté aussi très romanesque, très... C'est vrai qu'on est prisonnier d'un décor dans lequel on a vécu de choses...
Les plis sinueux des grandes capitales comme disait Baudelaire, vous l'aviez cité Baudelaire. Lui aussi. Oui. Est-ce que ces plis sinueux, ils ont changé ? Il y a un passage qui m'a beaucoup plu, il y en a plusieurs, mais c'est qu'en fait, vous parlez dans Souvenir dormant, précisément, de géolocalisation.
Oui.
À un moment, il imagine le futur.
Oui.
Et
oui.
Il dit « J'étais sûr que dans l'avenir, il suffirait d'inscrire sur un écran le nom d'une personne que vous aviez croisée autrefois et un point rouge indiquerait l'endroit de Paris où vous pourriez la retrouver. » Alors, c'est drôle parce que c'est de la géolocalisation temporelle presque.
Oui, oui.
Mais ça, si ça existait, ça reviendrait à mettre en péril votre littérature.
Oui, mais ça existe déjà, parce que, par exemple, c'est vrai que maintenant, on peut avoir directement la réponse par Internet, mais il y a certaines choses quand même qui résistent, que Internet n'arrive pas à...
Oui, il y a des zones grises. Oui. Mais si vous étiez né aujourd'hui dans une époque où il y a géolocalisation, cette littérature-là, la vôtre, n'aurait pas pu exister.
Oui, et justement, moi j'ai hâte de voir, parce qu'il y aura certainement un type très jeune qui il aura une vision de tout ça, il la traduira d'un point de vue romain. Oui, justement, cette nouvelle manière d'appréhender la ville.
Alors, vous aviez cité Ossip Mandelstam dans votre discours. C'était sur Pétersbourg. Je suis revenu dans ma ville familière jusqu'aux sanglots, jusqu'aux ganglions de l'enfance, jusqu'aux nervures sous la peau. Pétersbourg, de mes téléphones, tu as les numéros. Pétersbourg, j'ai les adresses d'autrefois où je reconnais les morts à leur voix. On dirait qu'ils parlent de vous.
Bah, c'est-à-dire que, oui, parce qu'évidemment, dans certains agendas qu'on a eus, évidemment, il y a des numéros de téléphone, mais ce sont des gens qui sont plus près. Lui, il parlait des gens qui avaient un peu disparu au moment de des purges et tout. Enfin de...
Vous évoquez chez votre narrateur l'idée d'un sixième sens de chien truffier, c'est votre expression. Oui. J'ai d'ailleurs voulu approfondir la question en faisant une liste dans mes cahiers de tous ces lieux et de ces adresses précises où j'avais décidé de ne pas m'attarder. Il s'agit d'un don particulier, un sixième sens que possèdent par exemple les chiens truffiers et qui évoque aussi certains appareils comme les détecteurs de mines. Pensez que la topographie, la géographie peut être potentiellement explosive. Par exemple, vous parlez d'un café, enfin vous parlez, votre narrateur, hein. Le malaise que j'éprouvais chaque fois en passant devant la source s'est précisé. J'ai eu l'impression que dans cet établissement, on était sous la menace d'une rafle. En fait, c'est quoi ce sixième... Vous l'avez, vous, ce sixième sens de chien truffier? En tant qu'écrivain, hein.
Il y a certains lieux, où j'éprouvais une sorte de malaise, comme s'il y avait des choses qui s'étaient passées, mais c'était peut-être lié à un truc imaginaire ou à un rêve que j'avais fait sans me... Parce que souvent, on fait des rêves dont on ne se souvient pas, et puis peut-être que j'ai fait un rêve où il y avait ce café, la source, et je ne me souvenais pas du rêve, et donc j'éprouvais un truc bizarre.
Un malaise.
Hein. C'est quelquefois purement subjectif, mais quand même, il y a quelquefois des endroits où vous sentez qu'il y a... Il y a quelque chose qui flotte, enfin...
On parlait d'éther tout à l'heure, je pense là, l'éther me fait penser à l'opium, et à la confession d'un mangeur d'opium de Thomas de Quincey. Quand il parlait de Londres, il en parlait comme d'un énorme labyrinthe. Si Paris était un labyrinthe, si tant est que cette image vous convienne, est-ce que justement l'écrivain, c'est Thésée qui affronte vraiment le Minotaure, ou est-ce que c'est juste un spectateur? Parce que vous faites référence à Rétif de la Bretonne, qui était un autre de ces marcheurs, justement, parisiens, au XVIIIe siècle, cette fois-ci, qui se définissait comme un spectateur nocturne. Est-ce que l'écrivain risque quelque chose, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, seulement occasionnellement, comme vous le dites dans le livre, sent le vent du boulet parce qu'il y a un lieu qu'il préfère éviter?
On
est acteur ou spectateur quand
En fait, il se trouve un moment dans un café du début du boulevard Saint-Michel. Ça, c'est des souvenirs personnels. C'était quand j'avais 20 ans ou 21 ans. Et j'ai senti que, à ce moment-là, si je faisais quelque chose, je risquais d'être... Il y avait quelque chose de basculé, et donc on se souvient très bien du lieu où on a éprouvé ce genre de choses, où justement j'avais l'impression que je risquais d'être emporté dans un truc, enfin qu'il fallait faire quelque chose. C'était lié à ma vie personnelle, je faisais pas d'études, j'étais livré un peu à moi-même, et il y a eu un moment qui s'est lié à un endroit très précis où j'ai senti que si je faisais pas comme de remonter à la surface, je risquais d'être complètement... Et donc, c'est lié à forcément ce genre de moment de sa vie où on a l'impression qu'il faut... C'est le moment de remonter à la... Ça vous laisse un souvenir très précis, le lieu, ou certains lieux où vous avez attendu quelque chose de très important dans votre vie, où le lieu reste évidemment très présent.
On va marquer une deuxième pause, Patrick Modiano, en écoutant Django Reinhardt, Manoir de mes rêves. On est totalement chez Modiano. Le manoir, l'endroit, et puis le rêve.
Mais c'était lui, il trouvait toujours des titres oniriques comme ça. Encore plus, ça me frappait beaucoup, les titres qu'il trouvait. C'était beaucoup plus poétique que mes... Il avait le sens du...
Souvenir dormant, c'est pas mal quand même.
Oui, mais Manoir de mes rêves, c'est...
Django Reinhardt, Manoir de mes rêves, c'est le deuxième choix musical de Patrick Modiano. Nous passons cette heure avec le prix Nobel de littérature dans sa bibliothèque, entouré de livres donc à l'occasion de la parution de ses deux nouveaux textes, une pièce de théâtre et un roman. Souvenir dormant pour le roman, et la pièce de théâtre c'est Nos débuts dans la vie. Alors c'est une pièce où on découvre deux jeunes gens et deux adultes. Deux jeunes gens qui sont Dominique et Jean. Dominique est une jeune actrice. Jean, un apprenti écrivain qui tient son manuscrit dans une valise, oui, dans une chaîne où je vois Patrick Modiano secouer, oui, la tête. Oui, en fait, il a une chaîne qui retient cette,
oui,
valise
un peu
à son,
une chose absurde, c'est-à-dire
à son poignet. Pour pas,
ouais. Oui, parce que comme il est un peu dans un climat un peu hostile vis-à-vis de ce qu'il fait, alors il a un cartable où il met son manuscrit où il travaille et c'est relié par une sorte de menotte de chaîne pour pas
qu'on... C'est comme les agents secrets.
Oui,
les...
c'est complètement, voilà, absurde.
Oui. Oui, enfin, c'est absurde, mais c'est une image qui parle parce qu'on a l'impression... Alors, il s'agit, là, on a parlé du roman, là, il s'agit d'une pièce de théâtre, oui, mais on a l'impression que c'est toujours, en fait, un affrontement entre adultes et les enfants qui doivent échapper un peu à ces monstres pour s'épanouir, en fait,
oui,
pour,
oui,
devenir écrivain ou actrice.
Oui, c'est un peu un thème, oui, on retrouve chez d'autres écrivains. Oui, la jeunesse qui...
Je sais pas, ouais, qui, côté Cocteau presque, oui, les parents terribles, les enfants,
oui,
terribles, il y a un peu ça.
Oui,
ouais,
qui doit se débattre contre les adultes épouvantables.
Enfin, c'est ça que vous avez dû faire, vous, parce qu'évidemment, moi j'ai pensé, je vous pose la question,
oui,
parce que,
oui,
mais votre mère était actrice,
oui,
hein, d'ailleurs.
Oui.
Il y a un petit texte que vous publiez aussi, elle s'appelait Françoise, sur Françoise d'Orléac,
oui, oui,
que vous préfacez, en fait, c'est un texte de Catherine,
oui,
Deneuve.
Oui, c'était paru il y a...
Vous parlez de ça, hein, peut-être me suis-je senti proche de Françoise d'Orléac,
oui,
parce qu'elle était la fille d'un comédien.
Oui.
Les endroits qui auront beaucoup manqué mon enfance et mon adolescence sont les dortoirs des pensionnats et les loges des théâtres. Vous parlez de votre mère, en fait, qui était actrice, et puis je pensais,
oui,
moi, alors, il s'appelle Caveux, en fait, le personnage,
oui, oui,
de beau-père.
Mais, oui,
et je,
mais,
pensais à Jean Co.
Oui,
c'est,
mais,
autobiographique ou pas?
Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est... ça aurait été très difficile pour moi d'écrire... en général, quand, les romans... Enfin, c'est compliqué quand ils abordent le théâtre. Moi, si j'écrivais une,
ouais,
pièce, je ne pouvais la faire que sur le théâtre, c'est-à-dire le théâtre dans le théâtre.
Ouais. D'où la mouette, hein, parce que c'est la mouette de,
oui,
Tchekhov,
c'est ça,
je le rappelais,
parce que... Parce qu'évidemment, ça m'a tellement frappé quand j'étais enfant, où les loges, enfin, c'est le théâtre que j'ai connu. Évidemment, maintenant, c'est pas tellement différent, mais tout ce qui est loges, coulisses, il y avait une sorte de magie. Évidemment, ça m'a. Donc, si j'écrivais une pièce, j'ai toujours pensé que ça ne pouvait être que sur le théâtre, dans le théâtre, parce qu'autrement, ça aurait été plus difficile, évidemment, parce que j'aurais plus envie d'écrire un rôle. Enfin.
Ouais. Mais c'est,
oui,
est-ce qu'on,
alors,
peut dire, parce que bon, c'est la, oui, question un peu bête, mais,
oui,
est-ce qu'on peut dire,
oui,
parce que évidemment quand on lit ça on se dit mais en fait,
oui,
il a énormément souffert, Patrick Modiano, si c'est un peu autobiographique,
oui,
cette image du jeune homme qui a ce manuscrit en fait qui rêve d'être publié,
oui,
et puis cet adulte qui lui dit, on va, oui, le citer quand même, Caveux, il lui dit cette menotte est ridicule, comme si ton manuscrit avait une,
oui,
valeur quelconque et qu'il fallait le protéger dans un coffre-fort de banque,
oui,
et lui il répond, ce jeune homme, Jean, rassurez-vous, d'ici quelques temps, je n'aurai plus besoin de cette menotte qui m'écorche les poignets.
Oui.
J'écrirai les mains libres.
Oui, mais...
Et cette idée, elle est belle, de protéger,
oui,
coûte que coûte, un peu la richesse de cette adolescence, dans,
oui,
ces moments où on a une force dingue contre des adultes qui nous disent que c'est pas sérieux.
Oui, oui.
Vous avez subi ça?
Mais c'est-à-dire que c'est pas tellement... Parce que quelquefois, il y a des choses très harmonieuses qui se passent... dans l'histoire littéraire, je sais pas, que des rapports très presque paternels, enfin je veux dire au 19e siècle, Flaubert, je sais pas, il était très gentil avec Maupassant, il le considérait presque comme son fils, enfin il y a des choses,
mais ça a été parce que elle naît quand même de votre cerveau ou de votre cœur,
oui,
parce que vous,
oui,
disiez, on a des choses sur le cœur quand on écrit.
Oui.
Mais cette image d'un jeune homme avec ce manuscrit auquel il tient,
oui,
il,
mais...
rêve de le voir publier, et il y a un adulte qui vient essayer de le...
Oui, mais là,
c'est fort, quoi.
Oui, mais
ouais,
ça, justement, comme c'est du théâtre, je vois comment on peut le jouer comme ça, mais on peut le jouer d'une manière plus monotone. Oui, là, vous...
Pour ça, vous n'avez pas subi ça, rassurez-nous. Il n'a pas fallu que vous battiez contre des adultes. Non, mais...
Non.
Voilà. C'est pas Jean Co qui voilà.
Non, mais c'est un peu le théâtre grossit toujours les choses, c'est-à-dire que évidemment quand on très jeune comme ça, quand on écrit un truc, je veux dire.
Est-ce que c'est une pièce qui a été commencée quand vous étiez jeune, cette pièce-là?
Celle-là? Non, mais je veux dire que.
Nos débuts dans la vie.
Non, mais
non.
quand on non ça c'est je l'ai ouais. fait il y a un an. Non mais le problème c'est que on éprouve toujours, mais là c'est démesurément grossi par le théâtre.
Oui. C'est quoi votre rapport d'ailleurs au théâtre, parce que vous êtes rare en fait. Je crois qu'il y a eu une pièce il y a très très longtemps.
Oui.
Et là c'est votre deuxième.
Oui, c'était fond. Une pièce, mais ouais. c'était pas tout à fait satisfaisant parce que ça a été monté trop vite. Enfin.
Et là pourquoi? Parce que vous oui. publiez un roman. Oui. Et puis en même temps, cette pièce de théâtre, pourquoi cette histoire-là devait prendre la forme d'une pièce de théâtre
En fait, c'est-à-dire que j'ai écrit cette pièce de théâtre parce que j'y pensais depuis longtemps, cette espèce de jeu de théâtre dans le théâtre. Avec
oui, donc la mouette de Tchekhov.
Oui. Mais
vous,
le problème, voilà. c'est que je ne dirais pas que c'est plus facile d'écrire une pièce, mais comme c'est quelque chose de plus direct, ça vous, c'est comme un, comme je n'avais pas écrit depuis pas mal de temps, et le moteur, et c'était pour... essayer de remettre le moteur en marche, parce que j'ai écrit Souvenir dormant, je l'ai écrit dans la suite de la pièce, mais la pièce m'a aidé à... C'est comme un moteur qui s'est un peu enrayé, et vous... Alors avec le théâtre, vous... c'est plus direct.
Dormant, presque un peu.
Oui, c'est... Ouais. Donc c'est comme le moteur se remet en marche, ouais.
C'est marrant.
Et donc après, vous pouvez écrire...
Il y a une phrase que j'aime, oui. que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est un jeune homme qui dit ça.
Oui.
Vous avez trouvé votre voie,
oui.
vous savez où vous allez, tandis que moi, je flotte encore dans un chaos de rêves et d'images, sans savoir pourquoi j'écris et qui en a besoin. Je n'ai pas la foi et je ne sais pas en quoi consiste ma vocation.
Oui. Ça, c'est Tchekhov qui, parce que c'est oui. beaucoup plus beau de.
Oui, parce que c'est oui, entremêlé, oui. puisqu'en oui, fait, il oui. y a des endroits dans le texte
oui, oui,
où on ne sait plus
si
c'est Modiano ou Tchekhov. Il
oui,
oui. y a un réverb, un effet
oui,
de.
Oui, mais Tchekhov, c'est mieux voilà. que ce que j'ai. Donc, oui, ça, c'est.
Vous savez maintenant pourquoi. En quoi consiste votre vocation, maintenant que.
Bah, c'est-à-dire que.
Vous le savez, vous pourriez répondre à ça.
Ce qui est terrible, c'est que quand, évidemment, comme quand on est très jeune, 19, 20 ans, et qu'on veut décider d'écrire, on. C'est complètement chaotique et même avec les années qui ont passé, quand je vois mon premier livre, j'arrive mal à comprendre comment j'ai pu écrire ça. Donc il y a quelque chose de complètement chaotique et où vous n'êtes pas du tout sûr que vous allez pouvoir faire quelque chose d'abouti. Donc vous vivez dans une espèce de... Bah oui, mais c'est normal, dans une assez grande solitude, parce qu'en même temps... C'est très difficile de trouver un conseiller parce qu'il faut quand même qu'il y ait un vague, même quelqu'un de très bienveillant, il faut quand même être seul un moment pour essayer de sortir dans le chaos. C'est pour ça que c'est très difficile. On est seul et puis en plus, on ne sait pas très bien si on va pouvoir, si ça va pouvoir prendre forme. Et puis même la personne la plus bienveillante ne pourra rien vous dire parce que il faut lui montrer qu'il... Enfin...
Mais vous, pourtant, vous l'avez fait quand vous étiez jeune. Quand vous êtes allé voir Emmanuel Berle, par exemple,
oui.
il y avait, je suppose, aussi une curiosité
oui.
de jeune homme pour,
oui, en fait,
pour,
moi,
pour l'écrivain, pour le,
oui, mais
pour
en
le
fait,
penseur.
Avec Berle, je l'ai connu après avoir publié. Mais ouais. par exemple, les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré Queneau parce qu'en fait... Il me recueillait un peu quand j'avais 14-15 ans parce qu'il voyait que j'étais un peu livré à moi-même. Mais je n'ai jamais osé lui dire que je... déjà vers 14-15 ans, je pensais à écrire tout ça. Et même jusqu'à... J'ai jamais osé lui dire que je voulais écrire. Donc, ouais. parce que je savais très bien que ça... C'est qu'il faut faire les choses... Enfin, il faut... Même lui, il était très bienveillant, lui. Il aurait... Mais qu'est-ce qu'il aurait pu me dire de...
Il m'aurait
encouragé, évidemment, mais il fallait quand même essayer de faire quelque chose
oui,
de concret.
En fait.
Et quand
vous
on
aimeriez
très...
le faire, ça Oui, pardon.
Quand
vous
non, avez... c'est-à-dire, quand on a 19, 20 ans, c'est très compliqué parce que, en fait, d'écrire, c'est une. Sauf des. C'est quand même une activité, dans le roman, mais c'est une activité assez lente, tout ça, et c'est contradictoire avec l'âge que vous avez. C'est pour ça que les seuls. Génie littéraire. Alors, sauf si vous êtes poète comme Rimbaud, parce que ça correspond mieux avec cette jeunesse qui peut faire des choses fulgurantes. Mais le roman est quand même quelque chose de lent, qui est contradictoire avec...
Avec la rapidité de la jeunesse.
La rapidité de la jeunesse. Puis alors, donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi de... Il y a toujours un moment de chaos et de...
Dans le livre, il y a un livre justement qui est cité, Rencontre avec des hommes remarquables. Oui. Parce que vous citez beaucoup de livres, hein, oui, comme, oui. Si, comme si les livres se répondaient aussi, oui. Comme dans une infinie bibliothèque aussi.
Oui, oui, parce que c'est des livres que j'avais lus à l'époque, où ça se, mm-hmm. quand j'avais 20, enfin 19 ans, quoi, dans le même.
Et le narrateur dit « Je n'ai jamais cherché, comme beaucoup de gens de mon âge,
oui.
à rencontrer les 4 ou 5 maîtres à penser qui régnaient en ce temps-là sur les estrades universitaires
oui.
et à devenir le disciple de l'un d'eux.
Oui. »
Alors je disais, bon, vous, Emmanuel Berle, vous l'avez rencontré, mais après, est-ce que parfois il y a des jeunes gens qui essaient de venir vous voir, qui veulent écrire ? Est-ce que vous en voyez, jeunes gens ou jeunes filles, qui oui. voudraient écrire ? Est-ce que vous avez ou aimeriez avoir le rôle un peu oui, de mentor
pas de mentor, mais par exemple, j'aimerais bien pouvoir... c'est un truc technique, quoi, de corriger certains trucs pour...
vous aimeriez faire ça
non, bah, parce que ça me rappellerait... Ouais. Parce que, en fait, c'est le métier des...
Ouais,
oui, c'est ce que je fais.
Ouais.
Mais ce qui est formidable, c'est de... Oui, sans doute, de voir des choses qui sont à l'état de... Et en fait, il suffit très peu de choses, en fait, de... On supprime une phrase, parce qu'évidemment, quand on est très jeune, on... Oui, oui, ça me plaît, ouais. Moi, j'aimerais...
Et vous le faites pas pour l'instant, mais vous aimeriez bien le faire.
Oui, mais en même temps, c'est compliqué, parce qu'il faut... on peut pas imposer. Non, mais j'aime bien le fait de pouvoir... quelqu'un qui m'apportera un manuscrit, par exemple, de sentir ce qu'il veut faire et de le mettre en... Enfin, de voir ce qu'il veut... Ça, c'est un travail que je fais tout le temps, alors pourquoi pas le faire pour d'autres.
Eh bien, avis aux intéressés. Merci beaucoup, Patrick Modiano. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Donc, Nos débuts dans la vie, c'est cette pièce de théâtre. Elle va être jouée, la pièce ?
Ben, c'est-à-dire que c'est comme un... Oui, c'est un peu bizarre de publier. Mais en fait...
Parce qu'il y a pour l'instant un projet de...
mais je préférerais plutôt que ça soit d'abord... noir sur blanc pour voir si
oui.
c'était parce que
mais ça va être fait ou pas encore
ouais. C'est-à-dire il y a eu des précédents de grands oui qui écrivaient des pièces mais qui mettaient très longtemps
à être joué Nos débuts dans la vie et puis Souvenir dormant qui est votre nouveau récit. On se quitte avec votre dernier choix musical, c'est Ella Fitzgerald, Early Autumn. Pourquoi ce choix de
oui non mais c'est parce que c'était l'automne. Oui, c'est des choix ouais. Oui, c'est ça parle de l'automne enfin de...
C'est fini votre complexe avec la musique. Je me souviens de votre discours de Stockholm, vous avez dit, j'ai toujours pensé que l'écriture était proche de la musique, mais beaucoup moins pure que celle-ci, et j'ai toujours envié les musiciens qui me semblaient pratiquer un art supérieur au roman. Vous ajoutiez, il y aura chez le romancier le regret de n'avoir pas été un pur musicien et de n'avoir pas composé les nocturnes de Chopin. C'est fini ce complexe-là ?
Non, c'est pas vraiment fini, parce que évidemment, le... Par rapport à la musique, la poésie c'est différent, parce que la poésie c'est une sorte de musique, mais évidemment le roman c'est quelque chose d'un peu... C'était pas un genre très prisé au 17e, 18e siècle. Enfin c'était un genre, on est obligé, il n'y a pas cette espèce de ligne mélodique pure qu'il y a dans la musique.
Merci beaucoup.
Ben, merci de votre accueil.
Ben non, oui, oui, enfin, dans votre bibliothèque. Ouais.
Oui, enfin.
Walks the land and chills the breeze and touches with her hand the summer trees. Perhaps you'll understand what memories I
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel à la réalisation, prise de son Frédéric Kérou et Julien Calvas, au mixage Bruno Mourlan. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter cette émission de manière illimitée sur franceculture.fr, cette émission avec Patrick Modiano.
Never dreamed it you any fall could come in view so early. where. I miss you so, let's never have to share another earth.